L'histoire de la Nouvelle-France, matinée de l'univers littéraire d'H.P. Lovecraft, une relecture fantastique de notre histoire. L'album s'appelle La Cité Oblique et on l'explore cette semaine à la vie en BD. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Et une prochaine heure qui sera consacrée à un livre qui est arrivé sur les étaux des libraires à la toute fin du mois d'août. Et un livre, en fait, qui nous semble incontournable, surtout en début de saison, avec un auteur qui, ma foi, s'impose dans nos débuts de saison également. Alors, le livre dont on va vous parler, ça s'appelle « La cité oblique », superbe ouvrage inspiré des voyages d'Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft. C'est édité chez Alto, c'est Darianne Gélina et Christian Quesnel. Et Christian Quesnel qui s'est imposé, dans le fond, au début de saison, avec « Vous avez détruit la beauté du monde il y a 2 ans », l'an dernier, « Mégantic, un train dans la nuit », et donc maintenant « La cité oblique ». Christian Quesnel, bonjour.
Bonjour Raymond, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir, merci d'être avec nous. Et Christian, en fait, je disais, on mentionne 3 albums, 3 ans, et tout ça s'est un peu créé d'ailleurs un peu en même temps, dans le fond, pendant que tu travaillais sur Vous avez détruit, tu avançais aussi sur ce qui allait devenir La cité oblique, Mégantic s'est inséré aussi là-dedans, donc il y a, j'imagine, une dynamique de création où on va d'un projet à l'autre avec intensité variable.
En fait, tu vois, concrètement, là, ça donne, je peux travailler sur des planches de 2 albums différents sur une journée. Tu as mentionné « Vous avez détruit la beauté du monde » qui traitait du suicide et Mégantic, qui est un sujet assez difficile aussi, dramatique. Donc, j'avais besoin aussi d'avoir un sujet plus léger. Ça fait drôle quand même de parler de Lovecraft en termes de légèreté, mais n'empêche que Lovecraft a eu un détachement émotif, contrairement à Mégantic ou à « Vous avez détruit la beauté du monde ». Donc, moi, j'aime beaucoup travailler comme ça en simultané. Ça me fait changement, ça me permet de respirer des fois une bouffée d'air frais quand le sujet est trop lourd.
Oui, puis en même temps, on est, comme tu dis, dans une dynamique quand même assez différente où avec Vous avez détruit, avec Mégantic, c'est une BD qui se rapproche un peu du documentaire. Donc, on prend un sujet, on prend des interventions, on prend une vérité qu'on met de l'avant, qu'on rapporte, dont on témoigne à travers la BD. Dans le contexte de La cité oblique, tu pars pas d'une vérité et tu t'appropries, dans le fond, une non-vérité, une invention à partir d'une réalité que tu transposes. Donc, j'imagine que l'esprit de travail, au-delà même du genre, devient différent parce qu'on n'est pas, dans la même dynamique de création, dans le fond.
Ben, exactement, parce qu'avec La cité oblique, au tout début, c'est Thomas-Louis Côté qui m'a demandé, il m'a dit « Tu devrais travailler sur Lovecraft », puis après ça, il a ajouté « Savais-tu que Lovecraft, il est venu à Québec 3 fois? » Moi, je ne savais pas du tout, mais là, je trouvais ça intéressant parce que mon univers esthétique correspond vraiment à Lovecraft. Puis j'avais le goût de travailler l'histoire, mais pas de façon poussiéreuse, là, de façon classique, essayer de voir tel navire qui était de telle façon, puis tel personnage, il avait l'air de ci, puis de ça. Moi, j'ai vraiment décidé d'exploser tout ça. J'avais commencé un peu avec Ludwig à réinterpréter l'histoire, le passé, tout ça. Mais avec La cité oblique, ça m'a permis vraiment, comme on dit par chez nous, un gros fun noir. Parce que je me suis vraiment éclaté, je me suis permis des libertés que je me permettais pas avant. Puis en plus, travailler avec Antoine, qui m'a vraiment challengé par la suite, Antoine Tanguay de chez Alto, il m'a vraiment challengé, puis il m'a poussé, là, vraiment poussé. Puis j'ai accepté qu'il me pousse, parce que Antoine c'est un des meilleurs éditeurs au Québec. Donc j'ai fait confiance de façon aveugle, puis ça m'a amené à pousser mon travail plus loin. Puis tu vois, les travaux sur les prochains albums que je suis en train de faire présentement, comme Dédé Fortin, ben je suis influencé par ça. Il dit tout le temps plus de couleurs, donc attendez-vous à de la couleur pour les prochains albums.
Et justement, contextualisons Lovecraft dans un premier temps, Christian. Dans le fond, on le disait, Lovecraft qui est passé à Québec, en fait, à 3 reprises, donc 1930, 1932, 1933. Trois voyages, duquel il a sorti un livre, en fait, qui a été édité de façon posthume des années 70, « To Quebec and the Stars ». Et j'imagine qu'à un moment donné, enfin, on plonge un peu dans ce répertoire-là, puis on se dit « OK, peut-être que l'ouvrage lui-même ne peut pas s'adapter ». Mais peut-être que la thématique abordée par l'ouvrage, elle, peut se transposer de façon agréable en bande dessinée.
C'est exactement ça qui est arrivé, en fait. Tu vois, il y a eu... moi, j'ai pris le « To Quebec and the Stars », puis là, la traduction, en fait, qui avait été faite chez Robert Laffont. Puis j'ai vraiment découpé des segments que Lovecraft avait écrits sur l'histoire du Québec, puis des descriptions de la ville de Québec aussi, parce que c'est vraiment deux ouvrages qui ont été regroupés là-dedans. Puis quand Lovecraft, il mentionne, bon, qu'il passe sur telle rue, il regarde à droite, il voit telle chose. C'est un peu drabe, en fait, on va se le dire. Mais j'ai quand même créé les planches à partir de ça. Puis à partir de là, il y avait comme une deuxième écriture au niveau des dessins qui s'est fait. Après, on a constaté, Antoine puis moi, que le texte ne pouvait pas être publié tel quel. Je veux dire, c'était un genre de Wikipédia un peu plate, là, on va se le dire. Sauf qu'on a vraiment décidé d'emmener le récit, comme j'avais fait avec les illustrations, de prendre vraiment les autres œuvres de Lovecraft, ce pour quoi il est reconnu, le fantastique, la science-fiction, l'horreur. On a transposé ça à l'intérieur de l'histoire de la Nouvelle-France en dessin. Puis ensuite, Ariane Gélinas est venue joindre au projet là, un peu plus d'un an. Puis elle a vraiment réécrit un récit comme si Lovecraft... elle a Lovecraftisé Lovecraft. Parce que le texte original de Lovecraft faisait vraiment pas Lovecraft. Donc, ça l'a apporté comme une troisième couche d'écriture. En plus, bon, première couche, Lovecraft, le texte original un peu drabe. Deuxième couche, les dessins au niveau de l'écriture. Puis la troisième couche, Ariane Gélinas avec le texte qu'on peut lire maintenant dans la bande dessinée.
Et ça veut dire que pour toi, ben dans le fond du projet Lovecraft à Québec, c'est devenu la cité oblique. Ça veut dire que pour toi, dans le fond, tu t'es lancé avec une idée de départ, j'imagine, mais que tu t'es permis de laisser ça évoluer aussi au fil du temps, au fil du contact avec l'œuvre, pour essayer de trouver comment la raconter. Donc, j'imagine que ça doit être un peu... Je veux dire, quand tu te lances, puis à un moment donné, tu te rends compte, OK, ça marche pas exactement, mais je veux continuer. Dire comment on manœuvre un peu avec ça, puis en construisant, déconstruisant, au bout du compte, l'ouvrage au fil de sa création?
Un projet de bande dessinée, puis c'est le cas pour tous mes albums, c'est une série de défis. Un après l'autre qui se présente, comment je fais une représentation, comment qu'on raconte, en combien de pages. Puis il y a des choix à chaque niveau qu'on doit faire. Pour la cité oblique, au départ, j'avais aucune idée combien de pages. Quand j'ai fait mon premier découpage du texte de Lovecraft, j'étais à 300 planches de prévu. Donc c'était vraiment beaucoup. Puis le travail qu'on a fait avec Antoine Tanguy, on a retranché à peu près 25 à 30 planches du livre. Il devait être plus gros que ça. C'est vraiment un ajustement, c'est comme un sculpteur, dans le fond, on s'ajuste, on rajoute des choses, on en enlève, c'est vraiment, on y va de façon le plus organique possible. Il n'y a pas de recette comme telle, il y a juste un moment qui arrive où on travaille sur quelque chose, on laisse ça reposer, on y revient, puis on voit des choses différemment, puis oups, ah, ok, j'ai une solution. Donc c'est une série de solutions une après l'autre. Ça a l'air un peu drabe, un peu technique, ce que je dis, mais c'est la réalité en fait. Mais si j'avais un projet sans défi comme ça, ça serait vraiment, je trouve que ça ferait beige un peu comme projet. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'aime dans mes albums, dans mes projets, c'est de tout le temps arriver, commencer un projet et pas savoir du tout où je m'en vais. Des fois, le découpage, moi, il est vraiment sommaire. C'est des barbeaux. Il y a juste moi qui peux comprendre ce que j'ai dessiné. Même des fois, je ne les comprends pas moi-même. Je suis obligé de revoir le scénario. Puis à partir de là, quand je réinvente à chaque fois ma façon de travailler, ben je garde un maximum d'originalité sur la planche que je suis en train de faire. Je garde il y a le moins de préparation possible. Puis pourtant, mes choses ont l'air tellement, tu sais, finies, tout ça. Mais c'est parce que je mets tout l'aspect créatif y est sur la planche originale, dans le fond.
Tu as besoin un peu de cette angoisse-là, si on peut dire, entre guillemets, pour te lancer, de pas te sentir contraint par des contraintes que tu te donnerais, dans le fond, parce qu'au bout du compte, chacun a sa méthode et ça se vaut, mais dans le fond, de te donner un minimum de contraintes pour maximiser, d'un côté, le risque d'erreur, mais de l'autre côté, le risque aussi d'instinct créatif qui prend le dessus puis qui t'amène à quelque part.
Exact. C'est comme un funambule. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi je fais pas de série. Parce que la série, je ne sais pas, certains non, mais il y en a qui tombent dans le confort, puis il y a des séries qui s'essoufflent comme ça. Moi, j'ai besoin de ce souffle-là nouveau à chaque fois, une impulsion. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre mes projets, tu vois. Il y a des choses que, tantôt je disais, il y a des choses qui vont se retrouver dans Dédé qui me sont venues de la cité oblique, puis pourtant, ils n'ont aucun rapport. Ludwig a eu une influence sur le reste aussi, quand vous avez détruit La beauté du monde. Je veux dire, il y a vraiment des liens entre les projets comme ça. Puis ça me permet vraiment d'évoluer comme artiste, mais en même temps, de ne pas m'emprisonner dans une formule. Le seul fil que tu peux retrouver dans mon travail, c'est le changement. C'est la recherche constante de nouveautés. Pas pour impressionner, pas pour faire épater la galerie. Vraiment pour moi, avoir un trip fou sur la table à dessin. Parce que Tu sais, tout ce qui peut arriver autour de la bande dessinée, c'est merveilleux. Tout ce qui m'est arrivé dans les deux, trois dernières années, c'est merveilleux, je veux dire. Mais il n'y a rien qui égale le plaisir de la création sur la table à dessin. Vraiment, là, ça, c'est ma raison principale pourquoi je fais de la bande dessinée. C'est ce qui se passe sur la table à dessin.
Et puis, on revient un peu à ce qu'on disait au départ. Dans le fond, tu mènes plusieurs projets en parallèle. Fait comme tu disais, il y a quelque chose qui bloque sur la cité oblique, ça ne marche pas. Tu prends ta distance, mais tu n'es pas obligé de retourner t'asseoir, de faire autre chose. Tu peux juste passer à un autre projet, tu changes ton équipement de table. On va régler le problème qu'on avait hier ou il y a trois jours, par exemple, si vous avez détruit. Puis...
C'est exactement ça. Tu vois, pour Dédé Fortin, que j'ai jamais travaillé, j'ai jamais dessiné aussi peu que la dernière année, sauf que Dédé Fortin, j'ai arrêté de travailler dessus quand la Mégantique est sortie. Parce que Mégantique a tellement demandé de travail au niveau de la promotion, au niveau des dédicaces. Bon, mais... J'avais des problèmes, parce que c'est moi qui assume la scénarisation pour Dédé. J'avais beaucoup de problèmes. Puis là, quand je suis revenu à Dédé, là, ce printemps, là, je voyais mon projet complètement différemment. Puis là, ça m'a permis de solutionner plein de choses, de répartir. En fait, ça te donne une certaine distance par rapport à ton travail qui te permet de plus avoir tout le bruit ambiant que tu peux avoir quand tu es trop proche. Ouais.
Puis de bonifier aussi l'influence croisée. Dans le fond, le travail que tu fais, ben tu parles avec Antoine, par exemple, ben ça va influencer comment tu vas aborder Dédé, comment tu vas aborder ça. Il y a une influence croisée sur plusieurs projets. Et ce qui fait qu'à la limite, si on donne un indice peut-être à ceux qui éventuellement analyseront ton œuvre, ben j'imagine qu'on est dans une logique où il faut voir la production par année plutôt que de voir par album, parce que les albums évoluent en parallèle, un peu en même temps, puis les influences croisées font que le style de Christian Quesnel évolue sur plusieurs fronts simultanément plutôt que nommément dans un album, puis après ça, il y a un autre, puis c'est vraiment un à la suite de l'autre.
Ben, le côté, tu vois, très technique de dessiner un train tel quel dans Mégantique. Bon, ben après ça, tu veux dessiner un objet qui existe pour le vrai, mais ben, tu prends beaucoup de liberté dans la cité oblique. Je veux dire, tout est une question d'équilibre, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu sais. Fait que moi, j'essaie de trouver mon équilibre comme ça, comme artiste. J'essaie de trouver aussi des projets porteurs, d'autres projets qui sont plus expérimentaux, des projets courts, des projets longs. J'essaie vraiment d'atteindre un équilibre pour avoir le même regard, parce que moi, j'ai un regard comme un enfant au pied du sapin de Noël le 24 décembre par rapport à mon métier, au médium. J'adore le médium de la bande dessinée. C'est un médium que je suis capable d'expliquer maintenant, encore que j'ai fait la maîtrise. Puis j'adore faire de la recherche là-dessus, tu vois, expérimenter, voir jusqu'où le lecteur est capable de faire le lien entre les images, jusqu'où on peut faire ressentir quelque chose sans lui montrer quelque chose au premier degré. Pour moi, ça, c'est une des grandes forces de la bande dessinée. Il n'y a aucun médium qui va aussi loin que la bande dessinée à ce niveau-là.
Oui, on le voyait en fait, je pense que c'est quelque chose, si on dit le point commun de tout ton travail, c'est cette recherche aussi narrative-là, l'idée que l'image en soi constitue le premier récit, que le texte ajoute un peu à ce premier récit-là, mais Mégantique, je veux dire, on enlèverait les textes, il y a une compréhension qui en ressort dans les ambiances, dans la cité oblique également, mais en même temps, comme il y a beaucoup de ruptures d'époque où on passe d'un personnage à l'autre, donc... Le texte prend une autre importance, un autre rôle, si on peut dire, à l'intérieur de ça. Mais une fois que toutes tes cartes, les rôles sont clairs, ben après ça, dans le fond, la narration visuelle est pas mal le premier contact que comme lecteur on a. Je veux dire, il y a des auteurs que je prends l'album, je vais lire le texte en premier, puis après ça, je vais regarder l'image. Dans ton cas, j'ai l'impression qu'il faut d'abord regarder justement le visuel, le récit, le parcours, l'ambiance que tu as travaillé, puis tout en juxtaposition aussi. Donc, pourquoi tu mets tel élément à côté de tel autre élément? Mais il semble avoir une forte réflexion aussi sur l'organisation de tes planches.
C'est parce que tout ça est vrai. Tu as absolument raison. C'est de la musique à mes oreilles. Parce que tout ça est réfléchi. Parce que j'entrevois mon travail non pas comme illustrer la bande dessinée, mais comme écrire la bande dessinée. Même si c'est quelqu'un d'autre qui assume le scénario, j'écris la bande dessinée pareil, parce que la narration en image, ça le dit, c'est une narration, c'est un langage, c'est quelque chose qui parle en soi. C'est pour ça qu'au premier coup d'œil, tu vois déjà ce langage-là, tu le comprends, tu le décodes. Donc c'est juste, j'ai travaillé davantage cet aspect-là, tu vois, puis de plus en plus, j'essaie de m'affranchir d'un scénario qui me vient de façon crue, description, j'ai dit à mes scénaristes, non, pas de description, j'ai pas besoin, parce que là, tu m'enfermes dans une cage à ce moment-là, où je suis pogné au premier degré de mon scénariste, tandis que si j'ai juste, comme, où ça se passe, mais pas de description, rien, avec les dialogues, ben là, à ce moment-là, ben ça peut partir tout seul. Avec Anne-Marie Saint-Cerny pour Mégantique, à me donner des points de forme sur des pages, puis moi, j'ai fait les images, puis après ça, il est venu mettre le texte. La cité oblique, c'est la même affaire. Il y avait déjà un texte que j'ai utilisé pour faire la bande dessinée, mais Ariane est venue après. Puis ça donne une préséance puis une force à la narration en images qui ressort quand tu ouvres le livre, je pense. Donc, mais je suis content que ça marche.
Oui, puis en fait, ça distingue parce que, dans le fond, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as creusé. Tu parlais de ta maîtrise. Dans le fond, tes études en BD ont été beaucoup axées justement aussi sur le visuel comme objet narratif, au bout du compte. Donc, c'est ça que tu explores aussi beaucoup. Et nécessairement, ben, ça vient influencer aussi ton travail d'avoir pris le temps de dire « OK, je m'assis, je m'installe, puis je réfléchis avec un projet qui est spécifique à... » penser à mon approche narrative après l'avoir exploré pendant déjà plusieurs années avant, là, parce que c'est pas arrivé au début de carrière non plus, c'est arrivé à mi-parcours.
Ah non, écoute, j'ai appris à marcher avant d'aller plus loin. Tu vois, j'ai exploré beaucoup, j'ai lu beaucoup les ouvrages théoriques. La plupart des auteurs de BD disent « Ah non, c'est plate ça, c'est pas intéressant, c'est trop intellectuel. » Mais explorer les ouvrages théoriques de Groenstein et compagnie, ça te permet vraiment de dire « OK, voici ce qui existe, voici comment que les choses sont envisagées. » Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut emmener? Comme mon projet de maîtrise, c'était « Advocatus Diaboli » sur le linceul de Turin. Ça me prenait un sujet qui était dans des temporalités vraiment éloignées pour créer des raccourcis visuels entre le Moyen-Âge et la fin du 20e siècle. Fait que ça m'a vraiment permis d'imaginer, de transposer habituellement ce qu'on retrouve dans la gouttière, dans l'espace inter-iconique, en fait, en deux cases. Ben moi, j'ai transposé cette fonction-là d'ellipse à l'intérieur de la composition d'une image, en mélangeant, en créant des choses uchroniques, en fait. Fait que ça permet, en un balayage, en tenant compte de la lecture de gauche à droite dans la bande dessinée, ça permet un balayage de l'œil où, quand on commence à balayer sur la page de gauche puis on finit sur la page de droite, on a franchi 700 ans. Donc, la bande dessinée, encore une fois, c'est un médium tellement fort pour jouer avec le temps et tout ça, mais tellement jeune encore aujourd'hui qu'il y a tellement de choses à explorer. Moi, je le dis, je suis un enfant au pied de sapin de Noël.
Oui, puis tu sais, c'est avec un album comme La Cité Oblique, d'ailleurs, tu sais, c'est qu'on arrive avec des pages. C'est chaque page, en fait, est en soi une œuvre, est en soi une narration. Il n'y a pas de cases où il y en a, somme toute, très peu, voire pas du tout, je pense, c'est de mémoire. Mais dans le fond, il y a quand même quelque chose de très narration BD, parce que justement, on va d'un segment de cette image-là. Donc, l'image peut être prise comme un tout, autant que comme un parcours à l'intérieur de celle-ci. Puis instinctivement, on le fait, parce que là, on parle, ça a l'air de la théorie, mais ça se vit instinctivement comme lecteur, dans le fond. On le ressent parce que ça a été, parce que tu y as réfléchi, mais j'imagine que tu y réfléchis pas non plus en le faisant, puis tu y vas un peu à l'instinct parce que tu as beaucoup réfléchi avant.
C'est toujours une réflexion de la lecture de gauche à droite, de haut en bas. Tout est disposé en fonction de cette lecture-là. À moins d'arriver avec une image comme un personnage qui va de gauche à droite, ça va. Mais si on veut montrer un personnage qui revient sur ses pas, on le montre de droite, qui va de droite vers la gauche. Donc, il y a vraiment... si on est conscient de ça quand on travaille les images, on peut faire ce qu'on veut avec le lecteur. Tu sais, puis, bon, il y a de gauche à droite, de haut en bas, mais il y a juste de haut en bas aussi une lecture totémique, dans le fond. On peut utiliser cette forme de lecture-là en bande dessinée. Oui. Puis, l'absence de casse dans la cité oblique, c'est vraiment Antoine Tanguy qui a dit « Fais-moi sauter tout ça ».
C'était pas nécessaire.
C'était pas nécessaire, puis il y avait raison, en fait, parce que ça le permet aux ouvrages, aux illustrations de prendre un espace dans l'ouvrage, justement, qui était plus grand, puis au lecteur, lui, de pénétrer davantage dans cet univers-là, parce que c'est un univers, c'est une ambiance qui est enveloppante là, dans la cité oblique.
Oui, qui est enveloppante, puis qui permet, j'ai l'impression que les entrecases viennent un peu aussi peser, en fait, les entre guillemets, parce que dans le fond, comme on a dit, il n'y en a pas, donc ça devient de la couleur, des couleurs sombres, ça rentre un peu dans l'illustration. Ça devient un peu perméable. Il y a ta narration aussi, j'ai presque l'impression d'en avant vers l'en arrière, parce qu'il y a des moments où les tentacules sont un peu par-dessus l'image, parce que oui, c'est Lovecraft, donc c'est des bibites tentaculaires, c'est Cthulhu et le reste, les grands anciens qui finissent par apparaître aussi dans cet univers-là. Et dans le fond, ils viennent perméabiliser un peu les éléments. Des fois, ils sont des éléments de détail dans ton image, des fois, ils sont un peu à l'avant-plan, des fois, ils sont un peu dans les pourtours, des fois, c'est juste des masses sombres, mais... cet élément enveloppant-là vient définir, si on peut dire, l'ambiance, au-delà de la couleur, au-delà des choix esthétiques, mais pour moi, c'est un des ingrédients de l'ambiance qui fait aussi la cité oblique.
Dans ta description, ce qui me frappe, c'est tu parles de lecture transversale. En fait, tu parles de quelque chose qui arrive en arrière de la case, qui arrive devant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer présentement, mais ça n'a presque pas été exploré. Puis quand tu cherches un souvenir dans ta tête, tu ne cherches pas de gauche à droite, tu cherches en arrière, tu cherches par en arrière. Donc, le souvenir, c'est une lecture qui est transversale. Fait qu'il y a quelque chose, Chris Ware, il a un peu étudié ça aussi dans son travail. Donc, il y a quelque chose là qui peut être travaillé davantage. Puis des fois, je faisais passer Lovecraft derrière ou devant des cases. C'est justement pour amener là cet aspect du devant. Tu sais, parce qu'il y a une majeure dans la bande dessinée. Puis on voit Lovecraft dans la bande dessinée raconter. Il n'y a pas beaucoup de descriptions de la ville de Québec, mais le fait qu'on voit Lovecraft raconter l'histoire, on le voit dans la ville, un peu à gauche, à droite. Bien, c'est un restant, si tu veux, du texte original de la description de la ville de Québec où il déambulait dans la ville puis il décrivait la ville.
Et tu me fais réaliser qu'à 20 minutes d'entrevue, on n'a pas dit de quoi ça parlait, la cité oblique. Alors, on va contextualiser, on parle de l'univers lovecraftien. Mais Lovecraft, donc on le disait, trois voyages, 1930, 32, 33, 34. Il est venu à Québec, il a exploré, été charmé par la ville. Et à partir de ces récits de voyage-là, dans le fond... il y a une réinvention qui est faite de l'histoire de la Nouvelle-France, au bout du compte, donc de Jacques Cartier jusqu'à la conquête, et où on imagine dans cette uchronie-là ben, que la puissance française, comme certaines puissances autochtones qui étaient là avant, était sous l'influence des grands anciens qui contrôlaient un peu la mémoire, l'esprit, l'âme du territoire, et donc fallait s'associer à ces grands anciens-là pour dompter le territoire, si on peut dire. Et donc, on nous raconte cette histoire-là. Et pour qui connaît, dans le fond, l'histoire de la Nouvelle-France, ben, on découvre une réinvention de ces figures à l'échelle lovecraftienne. Pour ceux qui connaissent Lovecraft, ben, là, whoops, on intègre Lovecraft, le littéraire, dans l'histoire comme telle. Et dans une histoire, et on revient un peu à quelque chose que tu disais, où tu sentais une certaine liberté de ne pas le dessiner parfaitement le train ou le navire, parce que Lovecraft, son histoire est imprécise. Et vous avez choisi aussi dans votre uchronie de garder cette imprécision, de garder certaines erreurs pour vraiment développer l'histoire lovecraftienne de la Nouvelle-France.
C'est le meilleur résumé de la bande dessinée que j'ai entendu jusqu'à maintenant. En fait, je serais pas capable de la résumer aussi bien que ça. Je te dirais même que Lovecraft, là-dedans, il sert vraiment d'excuse pour créer un miroir déformant sur notre propre histoire. C'est une façon de se percevoir. Déjà, le texte original de Lovecraft, c'était une façon de raconter notre histoire qui était racontée par un Américain, en fait. Mais un Américain qui refuse la révolution américaine, qui refuse l'indépendance américaine en plus. Donc vraiment, ce qu'on a enlevé de la BD qui était dans le livre original, c'était... God Save the King, un peu partout. Quand ils ont gagné la bataille des plaines d'Abraham, les Anglais, ils écrivent God Save the King. On ne voulait pas nécessairement garder ça, mais ça donne une idée de l'esprit du personnage. Mais tu vois, représenter Frontenac avec un masque de hockey à la Jason, je veux dire, Jason, ceux qui ont créé ça, ils ont pigé en masse dans l'œuvre de Lovecraft. L'œuvre de Lovecraft est présente partout dans la culture populaire. Donc moi-même, j'ai pigé dans la culture populaire pour créer ce livre-là, en fait, de la forme esthétique.
Oui, ben en fait, même ça serait mentir de dire aussi que même les représentations, je pense à l'exemple de la représentation de Cartier, mais en soi, c'est aussi de la culture populaire, on ne sait pas à quoi Cartier ressemble. Donc, on va piger dans la culture lovecraftienne. Même chose pour bon Champlain, il commence à avoir des illustrations, donc j'imagine que tu vas chercher un peu dans la culture, l'imaginaire de la Nouvelle-France, mais justement qu'après ça, tu vas chercher aussi l'imaginaire de Lovecraft, ce qui nous donne un Richelieu avec un maquillage qui, aujourd'hui, serait apparenté un peu au métal. Tu parles du masque de hockey, on peut parler à des morceaux d'armure aussi, donc qui transforment, dans le fond, nos figures historiques, qui leur donnent une allure qui est décontenançante, un peu malaisante, parce qu'on n'est pas habitué de les voir comme ça, et en même temps, ça fait partie du jeu, justement, de créer un peu de ce jeu d'équilibriste-là pour le lecteur. On parlait de l'ambiance par la case, par la couleur, mais dans la composition de tes personnages aussi, on nous décontenance un peu.
Ben, tu vois, cette histoire-là qu'on a reçue au secondaire ou au cégep, ça donne, comme je disais, c'est un miroir déformant. L'effet qu'on a quand on se voit dans un miroir déformant, c'est déstabilisant. On se dit, oh mon Dieu, j'ai pas l'air de ça. Ah, ah, OK, ah, peut-être. Mais ça crée vraiment ça. Puis je trouve que c'est une belle façon de pouvoir se permettre de se projeter aussi quelque part. Parce que les Français, les Américains, ils font depuis longtemps là, de retravailler leur histoire comme ça, de passer un filtre, là, je sais pas moi, les Américains, Captain America, si tu veux, avec la Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça. Ils revisitent leur histoire, mais de façon ludique, puis ce qui fait en sorte que la jeune génération embarque là-dedans. Moi, j'ai pensé beaucoup à l'adolescent que j'ai été quand j'ai fait la Cité oblique. J'aurais aimé ça qu'on me présente l'histoire du Québec de cette façon-là, parce que peut-être je serais allé encore plus loin, plus rapidement. Je m'intéresse à l'histoire depuis toujours, mais peut-être je serais allé voir qui était vraiment Frontenac, qui était Champlain. Parce que les voir de cette façon-là, c'est plus proche de Friday the 13th que dans les manuels d'histoire. Mais en même temps, c'est fait pour ça. C'est fait pour intéresser des gens qui ne s'intéresseraient pas nécessairement à l'histoire de la Nouvelle-France. Mais tu vois, dans le texte original de Lovecraft, il y avait tout l'aspect des gouverneurs anglais ensuite. Là, ça allait, je pense, jusqu'en 1900. On a tout sauté ça parce que dans le texte de Lovecraft, il n'y avait absolument rien à apporter. Mm-hmm. C'était une suite de gouverneurs généraux qui succédaient avec leurs femmes qui développaient tel jardin, des choses comme ça. Donc, ça apportait rien au récit.
Et puis de le finir à la Nouvelle-France, ça permet d'éviter de faire du 400 pages. Et puis de terminer ça aussi à une date qui est quand même charnière dans l'histoire puis dans l'imaginaire collectif. Encore là, on revient à la culture populaire. On la connaît quand même, la date de la conquête, cours de cégep ou non, au bout du compte. Donc ça ferme le livre à quelque part aussi qui était cohérent, j'imagine.
Oui, puis de terminer comme ça avec les dieux, dans le fond, les anciens qui s'endorment. T'sais, le fleuve Saint-Laurent, c'était c'était parfait là, pour enfouir les dieux anciens. Fait que c'est vraiment un projet qui permet de pas de diaboliser, mais de tordre un peu la réalité pour en faire un grand récit. Puis les deux récits se tiennent en soi. Le récit de la Nouvelle-France reste intact. Puis le style Lovecraftien reste intact aussi. Puis c'est cette rencontre-là que j'ai vue dès le départ quand Thomas Louis m'en a parlé. Qui, pour moi, j'ai eu l'instinct de sauter là-dessus, puis finalement, parce que Thomas Louis ne m'a pas dit de travailler ça de façon fantastique, mais en même temps, ça c'est devenu tout de suite, je me suis dit, le potentiel au niveau esthétique, au niveau narratif de ça, ça peut être intéressant, puis en plus, qu'on puisse se reconnaître, nous, mais si le livre est traduit, voit l'étranger, tout ça, ça va faire en même temps, oui, Lovecraft est connu, mais les gens vont découvrir aussi l'histoire de la Nouvelle-France.
Oui, puis vont découvrir, dans le fond, un univers visuel qui est cohérent avec l'œuvre de Lovecraft. Puis ceux qui lisent au Québec ben, vont dire « Oui, mais l'univers visuel est aussi cohérent avec la Nouvelle-France, avec l'imaginaire, avec le fleuve, les grands espaces,
c'est ce qu'on voulait,
les murs et le reste. » Donc, c'est vraiment, ben, en fait, c'est l'idée de l'Uchronie, justement, de joindre un peu deux univers, de réinventer les deux univers à la sauce, à leur cohésion mutuelle, au bout du compte.
Exactement. Tu vois, j'ai un autre projet dans la même optique. C'est vraiment les mêmes ressorts. Après Dédé, bon, je pouvais travailler sur une adaptation d'un... Ben, en fait, c'est un reboot, je ne sais pas comment le dire en français, là, d'un roman de Jules Verne. Jules Verne écrit un roman qui s'appelle « Famille sans nom » sur les Patriotes de 1837. Puis nous, on veut en faire un genre de Mad Max uchronique, un Bas-Canada uchronique de ça. Donc tu vois, c'est de tordre encore une fois. Bon, c'est vu par un auteur étranger, l'histoire du Québec. Puis nous, on tord ça d'une autre façon aussi.
Et Christian, dans le fond, pour démarrer un peu tout ça, puis pour placer un peu ces éléments-là, j'imagine qu'il faut aussi se développer la mythologie lovecraftienne à la sauce de la Nouvelle-France, donc de voir un peu, puisque lui, c'est beaucoup des créatures maritimes, des créatures des eaux, donc on s'inspire un peu d'un personnage qui s'appelait Hydra pour créer, dans le fond, le grand ancien qui gardait un peu, qui surveillait les terres d'aujourd'hui de Québec.
Oui, en fait, ça, c'est venu vraiment avec le travail d'Ariane Gélina, ce dieu, parce que ce récit-là n'était pas là, du dieu ancien. Là, donc, on a vraiment, c'est dans la dernière année, Ariane et Antoine ont travaillé là-dessus pour la trame. Moi, j'ai toujours adoré dessiner des cerfs, des personnages humains à tête de cerf aussi. Puis c'est lui qui a émergé, en fait. Émergé dans le sens que... autant graphique que dans le récit. On s'est donné beaucoup de liberté à ce niveau-là. Puis on a... Je dirais pas le mot récupérer, mais on a essayé de respecter aussi tout l'aspect mythologique autochtone sans l'aborder précisément, sans se l'approprier. On a voulu faire un clin d'œil à ça parce que puis les premiers peuples sont devenus le peuple premier dans le livre. On voulait éviter tout cet aspect-là un peu sur la colonisation, un peu sur les autochtones, tout ça. On ne voulait pas rentrer à fond dans ce débat-là. Parce que pour nous, ça leur a fait dévier, en fait, le récit principal, qui est, dans le fond, une fiction, qui est un autre monde. Puis Lovecraft lui-même, tout ce qui n'était pas anglo-saxon, blanc, protestant, il n'aimait pas beaucoup. Là. Dans le livre original, il nous traite de papistes là, tout le temps, là, donc c'est vraiment dénigrant. Là.
Oui, puis dans le fond, le second peuple devient un peu les Français qui sont arrivés et qui, au contact du premier peuple, ben, ont été eux aussi faire alliance, dans le fond, avec les grands anciens pour prendre un peu le territoire. Et là, tranquillement, mais dans le fond, Champlain, on rentre beaucoup dans le détail justement de sa transformation parce que éventuellement, d'humain, il va devenir une créature un peu hybride à la fin de sa vie, retourner au fleuve, etc. Donc encore là, quand tu parlais de réinvention, on prend un mythe, en fait, ça fait penser à Dagon, puis aux autres éléments, aux histoires de transformation qui sont très propres à Lovecraft. Puis, OK, et si c'était arrivé à Champlain ici, par exemple?
Oui, puis en même temps, on en a profité pour évacuer tout l'aspect de domination des peuples européens et tout ça. On voulait éviter aussi le discours qui a été tellement fort dans les années 20, les années 30, là, de la grande épopée en Amérique, qui quand même est différente dans ce livre-là. Puis, il faut aussi, j'ajoute, que le peuple premier comme le peuple second, qui sont les Français, puis après les Québécois, puis les Anglais, ils sont, comment je pourrais dire, je les ai tous maltraités graphiquement. Donc, il y en a qui ont l'air des zombies de part et d'autre, puis j'ai ménagé personne. J'ai traité tout le monde de façon égale, puis pour moi, c'est une belle façon de représenter ce monde parallèle-là, en créant des personnages, des niveaux qui étaient égaux. On peut pas discerner, là, on peut juste dire « Ah mon Dieu, je voudrais pas vivre dans ce monde-là. »
Fait, c'est sous l'influence des grands anciens ou non, au bout du compte. Puis la terre qu'on découvre dans l'Uchronie qui est proposée ici, c'est justement une terre qui est sous leur emprise, donc qui est tentaculaire, qui est fantomatique. Donc, fallait établir un peu. Puis j'imagine que cet élément-là passe beaucoup aussi par l'ambiance du récit, par trouver la façon par laquelle, visuellement, d'abord, tu vas raconter, tu vas placer ces éléments-là. Parce que si l'ambiance n'est pas là, tout ce qu'on dit, ça ne fonctionnera pas, dans le fond.
Oui, puis tu vois, je me suis même inspiré d'œuvres, comme je disais tantôt, d'œuvres de culture populaire. Puis je pense que Go Nagai s'est beaucoup inspiré de Lovecraft pour créer Devilman, en fait, son personnage. Moi, je me suis beaucoup inspiré de cet univers-là de Devilman, très sombre, très apocalyptique, puis très étouffant aussi. Pour moi, c'était important de créer cet univers-là qui était propre. Je veux dire, on reconnaît Québec, on reconnaît des bâtisses, tout ça, mais c'est vraiment un Québec uchronique que je voulais, puis c'est un Québec fantasmé, si on veut, par Lovecraft, qui aurait pas... Je sais pas si on aurait pu faire ce livre-là il y a 40 ans, je veux dire, parce que au niveau esthétique, les gens ont tellement beaucoup évolué, ils en demandent tellement aujourd'hui. Les lecteurs de bande dessinée québécois, maintenant, sont devenus exigeants. Puis je pense pas que... Écoute, il y a eu Jean-Marc Saint-Denis qui a fait une bande dessinée dans les années 90 de Lovecraft. Je pense que c'est la dernière bande dessinée de Lovecraft qui a été faite. Donc, aux éditions Soulière, si ma mémoire est bonne. Mais aujourd'hui, ils pourraient avoir... les œuvres de Lovecraft sont tellement connues. À cette époque-là, c'était moins le cas.
Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a un appétit aussi pour l'intégration et l'exploration d'autres styles dans la bande dessinée. Sans dire que c'est une BD d'horreur, on est dans le fantastique glauque, mais en même temps, pour moi, l'horreur en BD, au sens très très large, et le fantastique passe aussi beaucoup par l'ambiance, et tranquillement, les explorations sur le trait, sur la manière de présenter les choses, nous amènent dans la possibilité de ce type d'univers-là en BD, mais pour faire réagir autrement que purement par « je raconte une histoire de peur ».
Oui, puis ce que je veux surtout pas faire, c'est du gore. Parce que je sors de projets comme Vous avez détruit la beauté du monde et Mégantic, où je me suis cassé la tête pour vraiment trouver des stratégies pour pas justement tomber là-dedans. Je voulais pas tomber là-dedans non plus. Ça aurait été facile, en fait, de faire ça dans la cité oblique, mais montrer... bon, il y a eu une scène, à un moment donné, on évoque les sorcières de Salem où on voit des femmes pendues à un arbre. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas dessiner. Mais je l'ai fait pareil parce que la façon que c'était fait, bon, ben, il fallait le montrer. Parce que le texte n'était pas assez puissant par rapport à ça, le texte original, j'entends. Mais c'est un souci tout le temps d'envelopper le lecteur, ben, tout le temps, depuis Vengeance primitive, en fait, le court opus que j'ai fait avec Julien Poitras chez moi, le graphique. Vengeance primitive, il y avait une ambiance, il y avait un ciel qui était bas, il y avait quelque chose. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler sur des papiers de couleur. Ce qui permet, tu travailles sur un papier bleu, là, en partant, là, tu fais n'importe quoi, un trait d'aquarelle là-dessus, il y a déjà une ambiance. Mm-hmm. Donc, puis un sépia, c'est la même affaire, tu vois. Fait que là, moi, j'ai continué à vouloir travailler cet aspect-là, mais là, en ajoutant des créatures complètement fantastiques, tout ça, là, ça emmenait, comment je pourrais dire, donc, il y a un côté ancien à mes images, ancien photographique, 1920, gratiné un peu avec des textures, mais avec des créatures fantastiques là-dedans, ça amène...
côté cauchemardesque, presque.
Cauchemardesque, ouais, comme si ça existait pour le vrai, quelque part, ou dans un miroir, en arrière d'un miroir, il y avait ça qui existait, tu vois, des tentacules qui sortent.
et donc, on part un peu, parce que là, faut définir l'ambiance, donc on s'est donné un peu les principes. J'imagine que tu parlais de papier de couleur, je pense que la couleur vient aussi assez rapidement, la palette qu'il y a dans la cité oblique est quand même relativement limitée, des tonalités un peu bleues, t'as tes rouges, t'as tes verts terreux, t'as le noir, le gris, mais au-delà de ça, c'est pas... des bulles jaunes quand Lovecraft nous parle, mais c'est le seul élément un peu lumineux, puis encore là, c'est un jaune un peu terne, mais j'imagine qu'il faut s'installer en avant, puis tu choisis un peu tes couleurs, tes papiers, t'organises un peu ces éléments-là.
C'est organisé de cette façon-là, mais tu vois, Antoine Tanguay, même aujourd'hui, là, encore, on fait des posts Facebook, puis il me dit « plus de couleurs, plus de couleurs ». Donc, il a toujours été tout au long du projet avec plus de couleurs. Donc, il y a des planches où tu vois des rouges flash, il y a du vert même, il y a quand même des tonalités, il y a même du mauve que j'avais rarement utilisé par le passé. Puis ça, c'est un des éléments que je parlais tantôt, ça va rester dans mon travail, la recherche de couleurs. Tu vois, j'ai fait récemment un portrait hommage à Pierre Fournier. Avec son Capitaine Québec, puis là, j'ai utilisé des couleurs flash, là. Puis j'adore ça, là, aussi, là. En fait, c'est juste d'avoir tous ces outils-là. Je veux pas tomber, justement, juste des couleurs sombres tout le temps, sépia bleu. J'en sors, là, en ce moment, là, un peu. Mais, tu vois, à chaque étape de mon travail, où est-ce qu'il y a des nouveautés, comme la brosse à dents, à un moment donné, c'était les collages, il y a eu des choses comme ça qui sont ajoutées. À un moment donné, ça part très fort, là, beaucoup, 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 mettons, de collages. Mais l'album après, il y en a moins, mais il y en a toujours. Fait que ces différentes méthodes de travail-là, ils demeurent au fil des années, ils s'additionnent.
Et puis la couleur peut servir de césure. Là, je pense à une planche, entre autres, qui m'a vraiment frappé parce que ben, la planche elle-même, c'est sur des tonalités noires, un peu verdâtre, jaunâtre, couleur très terreuse. T'as bon, un navire, t'as une chauve-souris qui est en train de s'envoler, t'as un petit peu de ton rouge qu'on en retrouve. Donc on a vraiment une double page, dans le fond, qui est très cohérente avec l'ensemble des couleurs de l'album. Et le whoops pour le dernier tiers de la deuxième planche, eh bien là, on passe dans un vert qui est presque plus phosphorescent avec l'ombre d'un tentacule. Donc, on a quelque chose qui est très cohésif, qui a été amené dans les pages précédentes. Et le whoops, juste avec un choix de couleur, un trait, quelque chose de complètement saturé d'une couleur, là, tu changes l'ambiance. À peu près ça, la page suivante, on introduit Jean Talon. Donc, on est complètement ailleurs, vers l'océan.
Ben la couleur, puis ça, j'ai vraiment exploré ça avec Vous avez détruit la beauté du monde. La couleur, elle est narrative. Elle plante un décor ou provoque une émotion ou une surprise. Au même titre que comment je pourrais dire, donc quand tu tournes une page, ben t'as un effet de surprise aussi. Donc, tous ces outils-là que tu peux te servir pour créer un récit en image, ben moi, je m'en sers. Je veux dire, écoute, on me publie, j'ai la chance d'être publié en couleur, je l'utilise certainement, puis j'y pense de plus en plus, tu vois. Puis même, des fois, j'essaie de simplifier. Puis quand toutes les planches sont montées aussi dans InDesign, moi, je recule souvent beaucoup avec la loupe. Puis là, je regarde. Puis là, on voit plus, on discerne plus vraiment les images, mais on voit les tonalités de couleurs. Là, on comprend, on schématise, si on veut, le récit en images. Puis on voit vraiment des pans de telle époque ou telle autre. T'sais, juste par les couleurs, des fois, je peux voir qu'est-ce qu'il y a, des moments forts du récit.
Mm-hmm. Puis de t'assurer que ta couleur offre aussi un récit cohésif, d'en faire une ambiance cohésive, de page en page, mais dans ta progression aussi.
Tout est fait pour raconter une histoire. Tous les moyens sont dirigés pour ça. En fait, tu vois, je lis beaucoup... je lis plus de bandes dessinées québécoises maintenant, mais j'ai lu beaucoup d'albums de bandes dessinées européens où je vois des choses, des fois, c'est juste un effet pour un effet. Tu sais, c'est de la masturbation d'un dessinateur. Là, je dis, c'est OK.
C'est un bon concept.
Super beau. Ouais, c'est un beau concept. mais comment s'en servir, tu sais, comme les trois, les quatre cases noires dans Mégantic. Je veux dire, j'ai déjà vu ça quelque part, d'avoir l'utilisation des cases noires pour représenter la mort. Mais c'était un gadget. Pour le gadget, la BD a été créée pour ça. Tandis que moi, je mets ça au service d'un récit qui est beaucoup plus global. Puis c'est, j'installe ça comme une force, une pointe, justement, dramatique dans la bande dessinée.
Et puis c'est ce qui change un peu pour moi l'expérience de lecture. C'est comme lecteur, on lit pas tes albums en disant « Ah, il a utilisé un gadget ou tel outil. » T'es lit, t'es vie. Puis à un moment donné, a posteriori, tu te rends compte un peu des mécanismes où quand tu choisis nommément d'essayer de t'y intéresser, de les explorer, mais ça arrive de façon inconsciente. Tandis que à l'inverse, quand la BD est là pour le gadget, ben c'est le gadget qui est mis en vedette plutôt que le côté narratif. Et c'est valide pour n'importe quel domaine, au bout du compte aussi.
Là, faire de la bande dessinée, c'est raconter une histoire, tout simplement. Moi, ça se limite là. Je veux dire, faire des illustrations qui racontent absolument rien, je suis pas un illustrateur, je me définis jamais comme un illustrateur. Quand on me dit « t'es l'illustrateur de », je dis « non, je suis un narrateur en images. Mm-hmm. » C'est ça mon métier, c'est ça mon travail.
Et puis après ça, c'est dans les choix de composition, ben, ton illustration pourrait être quelque chose de statique ou raconter quelque chose. Puis même en allant chercher quelque chose qui pourrait être statique, je pense à une double page. Est frappante dans sa simplicité. Tu as un immense cap avec un fermier qui est en train de labourer son champ. Tout est en noir. Dans le fond, le cap est en noir. Le fermier est minuscule. Dans le fond, on le distingue quand on s'arrête sur l'image. Si on passe trop vite, on peut le manquer. Tu as un bleu de mer, tu as un bleu de ciel, mais qui sont pas vraiment un bleu de mer, pas vraiment un bleu de ciel, et avec une luminosité en arrière de ça, parce que quand tu utilises la lumière, ça ressort particulièrement tellement l'album est sombre, mais c'est toujours une lumière fantomatique, un peu malaisante aussi. On y reviendra. Mais dans le fond, cette illustration-là, avec un autre choix de couleur, avec un autre biais, il n'y aurait pas nécessairement de sens, ça aurait pu être juste quelque chose de bucolique. Mais là, whoops, avec des choix de mise en scène, de mise en image, dans le contexte du récit, ben, cet moment statique-là devient un moment qui est un peu en mouvement, devient un moment où il y a quelque chose qui se passe en arrière et où la narration, sans être dans ta face, ben, est présente à l'intérieur de cette double page-là.
C'est exactement ça. Tu vois, il y a beaucoup de peintres bucoliques qui font un très bon travail, mais les peintures bucoliques se suffisent en soi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un avant puis d'un après, tandis que moi, j'ai besoin d'installer quelque chose. Même si c'est Louis Hébert qui laboure son champ, j'ai besoin, dans le contexte lovecraftien, j'ai besoin de le représenter de façon inquiétante. Pour maintenir cette tension-là chez le lecteur, pour qu'il continue à découvrir l'ouvrage, puis qu'il rentre vraiment dans l'ouvrage, puis il y a quelque chose que j'ai essayé d'installer dès le départ dans le livre, puis Ariane aussi, c'est vraiment installer l'ambiance, puis ensuite, là, on rentre vraiment dans la série de personnages. Tu vois, il y a un bout quand même, il y a un certain bout avant qu'on arrive à Champlain. Bien, on parle des Vikings, on parle tout ça, mais on installe les choses tranquillement. Mais cette ambiance-là, en fait... Moi, mon souhait, c'était que les gens puissent passer à travers l'ouvrage complètement, qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Moi, je veux dire, j'utilise le surgissement comme ça, comme en bas de la case, pour je veux maintenir le lecteur dans le livre. Je veux pas créer, puis je mentionne tout le temps le gauche à droite, de haut en bas. Je veux pas qu'il s'en fasse. Je veux enlever tous les obstacles au lecteur possible dans la lecture de la bande dessinée pour faciliter le glissement de l'œil, donc faciliter sa lecture, qu'il se fatigue pas, qu'il tourne les pages, puis qu'il soit encore intéressé, qu'il veuille découvrir par le surgissement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté.
Oui, ben en fait, d'autant que justement, on le disait tantôt, on met de côté un peu certaines conventions, les cases, les intercases et le reste, parce que c'est intégré dans l'image. Donc, faut que ça soit organique, faut que ça suive, puis que le lecteur se prenne pas la tête pour savoir comment je la lis cette BD-là. Qu'il soit pas non plus, parce que quand même, il y a des pages, il y a beaucoup de choses, mais on n'est pas non plus, disons, sous un amoncellement, on n'est pas assommé par les éléments. Autant qu'il y a des pages comme celles qu'on va décrire qui sont très, 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 très aériennes, très, très calmes, au bout du compte, mais en gardant, comme tu dis, le sentiment de mal-être, de malaise, de lovecraftien, en fait. Il est dur à décrire, en fait. T'sais, il est dur à décrire parce que c'est un bon sentiment de malaise, au bout du compte.
Il y avait aussi un souci, puis Antoine et Ariane ont beaucoup travaillé là-dessus, c'était aux trois quarts de l'album, il y avait comme un essoufflement à un moment donné. Puis là, ils ont vraiment retravaillé ça pour emmener une montée dramatique vers la bataille des plaines d'Abraham. C'est pour ça qu'on a retranché 20 à 30 planches du livre. C'est justement pour conserver ça. Puis, je veux dire, il y a plein de personnages que j'avais dessinés qui ne sont pas dans l'album, malheureusement. Mais je veux dire, c'est quand même, c'est au, encore une fois, tu vois, quand il m'a dit ça va mieux servir la narration, ça va mieux servir l'œuvre, je me suis dit aucun problème. Je veux dire, mon ego, moi, il vient en deuxième. C'est vraiment l'œuvre qui est le plus important. Pour moi, parce qu'on est au service de l'œuvre, veut pas, on n'est pas au service de l'ego, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de. En tout cas, j'essaie d'éviter les gadgets dans mes BD.
Tu sais. Oui, puis tu jettes pas les vieilles illustrations, fais comme ça dans l'édition Collector 20e anniversaire, mais il y aura du matériel exclusif à ajouter.
Au bénéfice de mes héritiers.
Et à travers ça, je mentionnais ta lumière, parce que dans le fond, l'album lui-même est quand même relativement sombre, mais il n'est pas exempt de lumière. Si on exclut un peu les bulles et ces éléments-là, ben justement, dans des fonds comme la planche de Louis Hébert, dans les yeux de tes personnages aussi, tu réussis quand même à créer avec des lavis un peu des éléments blancs, donc l'idée d'une lumière, mais encore là, pas d'une lumière qui est d'un blanc franc non plus, d'une lumière qui reste aussi dans cette ambiance-là. Donc, le blanc lui-même, il a fallu que tu trouves le bon blanc, au bout du compte, si on peut dire.
Ben, ça, je le dois à Jean-Paul Hyde qui a posté à un moment donné un produit, un blanc. C'est une aquarelle blanche qu'on peut vraiment retravailler, puis diluer avec le fond. On peut avoir toute une gamme de blancs. J'avoue que ça, je m'en sers allègrement, surtout sur un papier de couleur. Parce que sur un papier de blanc, bon, ben, il faut que tu crées les ombres pour créer la lumière. Tandis que sur un papier de couleur, là, tu peux carrément y aller avec le blanc pour créer à partir de la lumière ce qui existe, tu vois. Parce que des fois, moi, je fais bon. Pas des fois, je fais toujours mon aquarelle le plus foncé, je fais mon bleu foncé avec mon sépia, beaucoup. Puis là, j'arrive à la fin, puis là, quand je rajoute le blanc, là, ça change complètement les choses, ça crée des volumes, ça découpe des fois un personnage du fond. C'est magique. L'aquarelle, pour ça, elle est magique. Là.
J'imagine que l'aquarelle, à l'inverse, si des fois il y a des mouvements spontanés qui se créent, parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut contrôler, où des fois l'erreur arrive, il y a un peu trop d'eau, on essaie de lancer des éléments pour salir, entre guillemets, un peu la case, on perd un peu le contrôle. Donc j'imagine que c'est aussi d'intégrer l'erreur, ou des fois il y a quelque chose qui se crée qui finalement, ah non, ça marche pas, puis là, t'es une demi-journée de travail à reprendre.
Je suis plus souvent aidé par les erreurs que ça cause problème, en fait. Parce que souvent, c'est une série d'erreurs qui crée que... le fait que ça marche. Mm-hmm. Souvent, là, comme tu parles de la planche de Louis Hébert tantôt, là, le gars en train de labourer son champ sur un pic, ça, c'est une série de choses naturelles qui sont passées dans l'aquarelle. Parce que moi, je travaille sur une table inclinée, donc l'eau a glisse, en fait, assez cool. Puis là, ça crée l'eau dans son sillage, emmène la peinture, puis ça emmène vraiment ces textures-là qu'on voit. Mais à un moment donné, quand je vois ce qui se passe sur la table à dessin, je reprends l'original, puis je le mets à plat, puis je me dis, OK, je l'arrête là, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment être attentif aux accidents qui peuvent arriver, être attentif à la matière avec laquelle on travaille, beaucoup.
Puis ça veut dire, en fait, que c'est un style qui serait difficilement transposable à l'informatique, parce que tu perdrais cette erreur-là, il faudrait que tu la génères artificiellement. Donc ça serait plus difficile, en fait, d'avoir ce type d'incident heureux-là, où l'instinct, justement, va te permettre de placer puis de profiter de la nature du matériel que tu utilises, en fond.
C'est même pas envisageable pour moi de penser mon travail en fonction de l'ordinateur, en fonction de Photoshop. Photoshop, c'est un outil parmi tant d'autres pour moi. J'ajoute des choses, des fois, des pointes de lumière ou des écritures en filigrane ou des médaillons métalliques que je numérise. Mais c'est jamais l'outil principal, parce que l'outil principal, c'est mon style aussi. Donc, je peux pas... c'est comme... La couverture, tu vois, c'est des poches de thé que j'ai utilisées sur le carton aquarelle qui crée ces textures-là, je veux dire. Puis tu peux pas... À l'aquarelle, j'aurais pu aller chercher une couleur peau, mais je veux dire, on l'a, la couleur peau, avec ces taches-là. Puis en même temps, ce côté inégal-là, ces accidents-là, créent le style aussi.
Mmh. Puis d'autant en plus, quand tu parles d'eau, puis d'un médium qui est basé sur l'eau, dans le contexte d'un livre de Lovecraft, où l'eau et les puissances des profondeurs ont leur importance, dans un territoire comme le Québec, où l'eau est aussi omniprésente, on s'entend que, je parle de teint terreux, je parle de rouge, mais reste que si j'avais une couleur à dire sur cet album-là, ça reste le bleu, qui est la tonalité qui est un peu la plus présente aussi, parce que on dirait tout nous amène vers cette couleur-là comme étant peut-être la dominante de la cité oblique.
C'est drôle, depuis un an ou deux, on me parle beaucoup de mes bleus, en fait, puis c'est pas quelque chose qui est si conscient que ça dans mon travail. Je suis conscient que je viens de l'Outaouais, mais j'adore le Québec maritime. J'adore Québec, j'adore le bas du fleuve, j'adore Charlevoix. Tu vois, je suis allé en Gaspésie pendant mes vacances cet été. Puis ce bleu-là, on dirait que c'est une recherche constante, une utopie de tout le temps vouloir reproduire ce bleu-là, ça ne marche jamais, mais il y a tout le temps ce désir-là de vouloir reproduire ce bleu-là. Mais ça donne ce que ça donne aussi. Je veux dire, ça apporte... c'est une recherche, un. Puis c'est une recherche... j'assouvirai jamais cette recherche-là, ce besoin de recherche-là, parce que j'y arrive pas, tout simplement. Mais ça crée ce qu'on voit dans la bande dessinée.
Oui, puis en fait, tous les mouvements un peu de l'eau en écho aussi aux mouvements tentaculaires qui sont toujours un peu imprévisibles, qui sont un peu par-ci, par-là. Je veux dire, quand on pense à tes moulins avant avec des tentacules en arrière, c'est comme, OK, c'est un moulin, mais subitement, je suis moins confortable avec le moulin. C'est juste un petit détail comme ça, puis avec des mouvements un peu, justement, de recréer un peu ce mouvement-là, un peu spongé aussi des tentacules. Faut réussir à les trouver, à les maîtriser, parce que c'est pas juste une petite ligne courbe, puis merci, voilà, c'est fait. Faut qu'il y ait quelque chose un peu plus.
Que ce soit intégré,
en fait. Puis surtout qu'ils sont partout. On s'entend que...
Ouais, à un moment donné, j'ai modéré un peu les planches avec les tentacules. Je voulais pas que ça devienne encore une fois un gadget. Je voulais que ça demeure l'esprit Lovecraftien, mais sans que ce soit là, bon, OK, je vais tourner la page, puis il va y avoir des tentacules. Mais tu vois, pour revenir au moulin, moi, je pense que j'étais petit gars. Je pense qu'on a visité l'île Perrault. C'est ça, l'île Perrault? Bref, avec l'école. Puis il y avait un moulin avant. Puis il nous expliquait que pour lubrifier les engrenages du moulin, le meunier allait chasser des crapauds, des grenouilles, puis il s'en servait pour écraser autour de ça. Puis là, ça m'est resté. Je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien glauque. Puis c'est là que j'ai eu l'idée d'imaginer le moulin avec des tentacules. Le moulin devenait une créature, mais une créature qui n'était vraiment pas attrayante, en fait.
Oui, puis, un peu comme le bateau, le maritime, un peu comme le forestier, mais c'est animé aux puissances, au vent. Donc, même narrativement, je veux dire, on peut se trouver des justifications assez facilement de pourquoi eux autres, ils ont des tentacules, mais parce que ça reste une exploitation de la force du vent, de la force de la nature.
Exactement, c'est la fusion, si tu veux. En fait, c'est la possession des éléments par une sorte d'esprit, par un esprit, une déesse. Il y a quelque chose qui est davantage, qui va plus loin que juste le simple objet, mais l'objet est animé, en fait. C'est vraiment ça que j'ai voulu faire. C'est fusionner... C'est enlever les frontières des perceptions qu'on peut avoir sur les choses. Puis je pense que c'est là qu'il vient le malaise un petit peu.
Oui, puis encore là, je réitère, c'est un bon malaise, évidemment. C'est pas, il n'y a pas de côté négatif là-dessus. Et en même temps, en terminant, Christian, j'imagine que ça devient un peu un défi. Parce que si tu démarres le projet Lovecraft en disant « je veux créer un objet qui est un peu comme on vient de décrire, un peu en mouvement aussi, et le reste, ben ça reste un gros contrat, donc j'imagine qu'il y a un avantage aussi à commencer un peu à tâtons, à essayer des choses, à expérimenter, puis à éventuellement laisser ce projet se trouver, plutôt que d'avoir le poids de l'objectif, dans le fond, dès le départ. Non?
Mais d'où l'intérêt de travailler sur plusieurs projets en même temps. Quand on travaille sur un projet X, ben on le délaisse, puis on travaille sur un projet Y, on revient avec un regard complètement nouveau sur le X en question. Donc, moi, ça me permet d'avoir du recul. Ça me permet de voir, parce que je suis vraiment, j'ai beaucoup d'autocritique. Je suis pas genre à dire, c'est vraiment bon, puis tout ça. Je suis genre à regarder tous les côtés un peu. C'est un peu, je pense que c'est peut-être l'influence de l'université. On regarde vraiment de tous les côtés, voir qu'est-ce qui est possible de critiquer, mais dans le sens positif des choses, pour amener le concept plus loin. C'est ça que j'essaie de faire dans mon travail, tant dans l'exploration que dans la présentation aussi.
Et je rappelle, les gens peuvent le découvrir, c'est disponible chez les différents libraires depuis la fin du mois d'août. Ça s'appelle « La cité oblique » d'Ariane Gélina, Christian Quesnel, c'est disponible chez Alto. Et Christian, je pense qu'on n'attendra pas nécessairement l'année prochaine, il y a près de 5 ouvrages en français et en anglais qui s'en viennent au fil de l'année. Alors j'ai l'impression qu'on va se revoir plus tôt que tard.
Toujours un plaisir, Raymond.
Alors Christian Quesnel, merci beaucoup. Et nous, c'est ainsi qu'on conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours au plaisir d'être avec vous.